Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Dominique Bourdin, je suis docteur en médecine depuis 1980, j'ai été médecin généraliste avec orientation acupuncture pendant 18 ans en Picardie, avant de faire 18 ans de psychothérapie, déjà pour changer un petit peu de niveau, et puis je suis venu en Vendée pour y créer un centre de mieux-être, pour y appliquer les 40 ans de recherche d'une approche globale de la santé. C'est toute cette expérience de 40 ans dont je vais vous faire part au cours d'une série d'émissions, de conférences sur Radio TerraZen, qui vont vous faire part non seulement de comment je considère la médecine aujourd'hui avec ses qualités et ses défauts, mais aussi comment on peut ensemble réfléchir à une approche différente de la conception d'être humain, de sa santé et de la façon de soigner.
J'ai été et je suis toujours très critique par rapport à la médecine. Je reconnais qu'elle a fait des très très gros progrès, notamment dans le domaine de la chirurgie, avec beaucoup de précision et beaucoup moins de dégâts quand elle fait des interventions. Et pourtant, je continue de penser qu'elle marche sur la tête aujourd'hui, de par la conception même de l'être humain qui est derrière elle et qui n'est jamais explicitée. Il y a une façon de concevoir l'être humain qui est matérialiste, réductionniste, qui considère l'être humain comme un ensemble de pièces détachées, qui fait que les implications derrière vont être considérables dans la façon de la médecine de fonctionner. Quels sont les problèmes? Les problèmes commencent déjà avec la formation. Les jeunes médecins, on leur dit en première année qu'on les forme pour 5% des pathologies, des maladies qui sont graves. Donc le médecin va être d'emblée formé pour des choses qui n'arrivent pas souvent, alors qu'on sait que 80% des problèmes se guérissent à peu près seuls, 5% ont besoin d'un coup de main, 15% ont besoin d'un coup de main, et 5% ont besoin. Du coup, il va y avoir une multiplication d'examens complémentaires pour que le médecin définisse une case qui corresponde à une maladie grave ou exclue cette maladie grave. C'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que l'ensemble des études est séparé en organes, en partie du corps. C'est-à-dire qu'on ne va pratiquement jamais avoir une vision d'ensemble. On va chercher des pathologies pour le système digestif, pour le cœur et les poumons, pour la tête, pour les membres, pour les hormones. Il va y avoir une spécialité par organe. Et la maladie va être définie comme un ensemble de symptômes, de signes cliniques, qui rassemblés en ça, en syndrome, dans une case, forment une maladie dont le nom est souvent en latin ou en grec, ou porte le nom du monsieur qui a déterminé la case, et le traitement va être adapté à la case. On va avoir une pléthore de diagnostics, de définitions de maladies, avec des traitements, et là les traitements restent extrêmement limités, puisque les principaux traitements c'est des médicaments, c'est de la chimie, c'est un petit peu de la radiothérapie, beaucoup d'opérations, mais c'est surtout des médicaments chimiques. Et les laboratoires sont là à la fois pour payer les services universitaires dans leurs recherches, on peut en mesurer l'objectivité, à la fois à la sortie des services hospitaliers pour enseigner les étudiants à partir de leurs médicaments pour que chaque laboratoire définisse que son médicament est le plus adapté à telle case, voire le seul qui peut être efficace. Et ensuite, les médecins vont être suivis par les mêmes laboratoires pour continuer de leur enseigner quel nouveau médicament va être peut-être plus efficace encore pour telle et telle case, pour tel et tel problème. C'est un un problème qui va être entretenu par le fait que la sécurité sociale définit elle-même les maladies et les actes de soins dans un gros dossier qui est la nomenclature de la sécurité sociale, où tout acte médical va avoir un nom, un numéro et une tarification. Si bien que la médecine va être résumée à un ensemble de maladies, de cases, pour lesquelles un certain nombre d'examens qui sont nécessaires afin d'en déterminer la définition, et ensuite un certain nombre de traitements qui sont adaptés à ces cases. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, cette démarche-là n'a rien de scientifique. C'est complètement lié à un système de croyances. La médecine croit que l'être humain est un ensemble de pièces détachées qui tombent en panne, qu'on va pouvoir changer au fur et à mesure. On va vers une robotisation de la médecine. Effectivement, à terme, on pourrait imaginer, à part le cerveau et encore, qu'on puisse remplacer au fur et à mesure qu'elle s'use toutes les pièces de ce puzzle. Je pense vraiment qu'il y a une autre façon d'aborder les choses. Nous avons une autre vision de l'être humain, une vision beaucoup plus globale. L'être humain a au moins 5 niveaux. Le premier, tout le monde est d'accord avec ça, nous avons un corps, mais nous sommes un corps, nous fonctionnons comme un mammifère. Ça, c'est clair. Mais un corps, un mammifère, un animal, si nous sommes considérés comme un animal, et ça peut être un choix, ça n'est pas un ensemble de pièces détachées. C'est un ensemble en harmonie qui fonctionne en synergie avec tous ses organes, avec une façon d'être qui correspond à l'espèce. Donc la première chose qu'il va falloir regarder, c'est comment fonctionne un animal. Ben, un animal, déjà, il mange, il boit, il respire, il se reproduit dans un environnement. On verra dans un chapitre suivant que ces éléments-là devraient faire partie de l'approche de la santé. Ensuite, le deuxième niveau, je ne vais pas insister ici parce que c'est un niveau qui mérite un chapitre à lui tout seul, une conférence à lui tout seul. C'est une dimension qui aujourd'hui est encore niée par la médecine et pourtant qui est connue depuis plus de 4000 ans à la fois par les hindous et par les chinois. C'est la dimension vibratoire du corps. Nous ne sommes pas que de la matière. Et la physique contemporaine confirme ceci, puisque dans l'infiniment petit, matière et énergie, c'est équivalent. Dans l'infiniment petit, tout est vibration et vide. Nous y reviendrons plus en détail. L'aura, l'énergie qui entoure le corps, c'est une réalité qu'on peut mesurer et qui mérite qu'on s'en préoccupe de façon plus importante. Le troisième niveau, c'est le niveau psycho-émotionnel. Nous sommes peut-être des animaux, mais nous allons à la rencontre d'un certain nombre de personnes. Nous vivons un certain nombre de situations qui nous créent des émotions sur lesquelles nous réagissons. Et ces grandes émotions, eh bien, elles sont utiles. Il va falloir apprendre à les gérer. Les grandes émotions, ça va être la joie, ça va être la colère, ça va être la tristesse, la peur, l'envie, la douleur, quantité de façons de réagir qui sont importantes, dont on ne peut pas faire l'abstraction. Le quatrième niveau, c'est le niveau du mental. Nous sommes des êtres qui pensons. On a un cerveau. Et notre cerveau, il n'est pas seulement fait pour gérer tous les organes en même temps. Il est aussi fait pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à être malade, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on travaille? Pourquoi est-ce qu'on fait des enfants? Pourquoi? On a besoin de comprendre qu'est-ce qu'on fait sur cette planète et comment on fonctionne. Et la maladie va rentrer dans ce processus. Nous considérons, nous, qu'il y a trois cerveaux. Le premier cerveau, ça va être le cerveau du cœur. C'est-à-dire que c'est là qu'on va vivre les expériences, qu'on va vivre les événements. Ils vont toujours être des événements qui vont nous être vécus comme des expériences, pas des expériences d'amour. On va essayer de les digérer dans notre corps avec le système digestif. On va essayer de les transformer en quelque chose qui nous fait grandir. Ça, c'est le deuxième cerveau, c'est les intestins. Et avec le troisième cerveau, on va faire des prises de conscience, c'est la tête, et on va mettre en place des transformations nécessaires pour continuer de vivre et évoluer. Enfin, la cinquième dimension de l'être humain, c'est ce qu'on appelle la dimension spirituelle, qui a été réservée aux religions, mais les religions ne sont pas forcément du spirituel. Cette dimension spirituelle, c'est que l'être humain a besoin que sa vie fasse sens. Il a besoin de sentir sa place dans la société, sur la planète et dans l'univers. Reprenons l'homme matière, l'homme machine, l'homme mammifère. Les éléments importants dans son existence, les éléments basiques, c'est la nourriture. On a besoin de manger. On a besoin de manger équilibré, de bonne qualité, régulièrement. Des fois, on a besoin aussi de ne pas manger. Donc, toute cette partie alimentaire doit faire l'objet de choix personnels et en même temps, la qualité de ces aliments devrait être protégée par la société. Même chose pour la boisson. Aujourd'hui, la nourriture industrielle nous amène quantité de produits qui sont toxiques. La boisson, c'est pareil. On n'arrive pratiquement plus à avoir d'eau potable, complètement potable. Donc ça fait partie aussi des... On est fait de 60 à 80% d'eau. Quand on sait, avec les travaux des motos sur lesquels on pourra revenir à un moment donné, les travaux de Benvenis sur la mémoire de l'eau, quand on sait l'importance de l'eau, moi j'ai du mal à comprendre qu'on la gaspille à ce point-là et qu'on ne la respecte pas. On est fait de 60 à 80% d'eau, et cette eau, c'est elle qui permet tous les échanges. Le minimum, c'est d'avoir une eau de bonne qualité. Ensuite, on respire. Ben, y a qu'à voir dans les villes comme Paris, les grandes métropoles. Nous qui vivons à la campagne, on s'aperçoit qu'on a vraiment même carrément du mal à respirer. On a du mal à reprendre notre souffle, tant il y a de pollution dans l'atmosphère. Le minimum aussi, ça serait de travailler à améliorer la qualité de l'air. Ensuite, l'être humain se reproduit. Aujourd'hui, on a la chance que on arrive à déconnecter la sexualité et tout le plaisir que ça peut apporter, toute la qualité de la rencontre que ça peut apporter de la fécondité. Et en même temps, c'est un vrai problème de réguler cette fécondité parce que c'est extrêmement difficile de le faire sans perturber le corps quand on joue sur le système hormonal. Là aussi, c'est tout un domaine qu'il faudrait reprendre en permettant aux gens de choisir qu'est-ce que je privilégie. Est-ce que je privilégie la contraception par des médicaments? Est-ce que je privilégie la connaissance du corps? Voilà, tout un domaine qui est... On considère aujourd'hui que c'est facile, quoi. La femme veut pas d'enfant, elle prend la pilule, éventuellement elle va trouver des moyens pour que l'homme prenne aussi une pilule, comme si le problème était simple. Or, il n'est pas si simple que ça. Dernier élément, on vit dans un environnement. Et l'environnement, eh bien, en plus de la pollution qui nous perturbe la qualité de l'air, l'environnement, c'est les champs électromagnétiques, c'est le bruit, c'est l'agitation, c'est le fait qu'on est déconnecté de la nature. En ville, on voit même pas les étoiles, tellement il y a de lumière. Les arbres, ils sont bien courageux, ils arrivent encore à pousser. Il y a quelques parcs, mais dans l'ensemble, il y a un environnement qui est extrêmement stressant, que ce soit l'environnement professionnel, familial, personnel, l'habitat. Et là, c'est encore un domaine qui aurait besoin d'être travaillé. Donc la première chose que la médecine devrait prendre en compte, c'est tout le côté préventif. Le côté préventif, c'est travailler sur la qualité de la nourriture, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité de l'environnement. Et ça se fait comment? Ben, ça se fait par une éducation des gens. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de formation sur tous ces points-là. Ensuite, c'est des choix politiques. Est-ce qu'on va continuer d'accepter de donner des éléments comme ça, de proposer des éléments dans toutes ces dimensions-là qui sont polluants, qui sont toxiques, qui sont agressifs, ou est-ce qu'on va faire tout un travail collectif pour améliorer la situation et du coup améliorer largement la santé? Deuxième niveau du corps humain, de l'être humain, c'est le niveau vibratoire, sur lequel je n'insisterai pas aujourd'hui parce que à lui tout seul, c'est tout un chapitre qui va nous permettre de comprendre beaucoup mieux qu'est-ce que l'on est sur cette planète, qu'est-ce qu'on fait, comment on fonctionne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens à dire, ça me tient à cœur de le développer. Donc je passe tout de suite au troisième niveau, qui est le niveau psycho-affectif, psycho-émotionnel. L'être humain a pris un corps, ça tout le monde le voit. Mais en fait, on rentre en relation avec des gens. On vit des situations. Et ces situations, on les vit avec le cœur. Pourquoi le cœur est au centre du corps? Parce que le cœur, c'est l'essentiel de ce que nous vivons. Tout ce que nous traversons comme événement se vit avec le cœur. C'est le centre de notre corps. Et tous ces événements, toutes ces rencontres vont se traduire par des émotions qui sont pas très nombreuses. Le nombre d'émotions, c'est la joie. Si quand on est heureux, ça veut dire que tout se passe bien, qu'on est au milieu de gens qu'on aime bien, dans un environnement qu'on aime bien, on a une qualité de vie qui est satisfaisante, ça donne de la joie. La joie, ça signifie que tout va bien pour nous. Après, il y a d'autres émotions qu'il va falloir apprendre à gérer. La colère, ça va être une indication qu'il faut qu'on dise non à quelque chose. La tristesse, ça va nous inviter à tourner une page. La peur, ça va nous indiquer un danger. La douleur ou la gêne, ça va nous indiquer qu'il y a quelque chose qui est mal vécu dans la symbolique de l'organe qui souffre. Après, il y a l'envie, ça va nous faire grandir. Il y a l'amour au sens d'aimantation qui va nous faire sortir de nous. Il y a tout un panel d'émotions, on peut après les décliner avec d'autres vocabulaires. La base de ces émotions, c'est ça, qui vont nous permettre de gérer les situations. Et ça, comment on va en prendre en compte? Eh bien, il faut qu'on arrive à expliquer aux gens que ces émotions sont importantes. Elles permettent de gérer le stress. Il y a du stress professionnel, du stress familial, du stress de couple, du stress environnemental. Tous ces stress se traduisent par des émotions qui nous permettent de nous situer. Donc, l'une des démarches importantes à faire avec les gens dans le domaine de la santé, c'est de leur dire « mais vos émotions, elles sont bonnes, respectez-les, parce qu'elles vont vous renvoyer à quelque chose que vous ne vivez pas très bien, et ça va vous permettre de faire des prises de conscience et de faire les transformations qui vont vous aider à avancer. » Ça, c'est la première chose, apprendre aux gens à gérer leurs émotions comme quelque chose de positif. Et la deuxième chose, c'est que on rentre en relation avec des gens. Rentrer en relation, ça veut dire créer des échanges. Donc, il va falloir apprendre des règles de communication. On devrait même apprendre ça à l'école. Mais c'est la base d'une vie ensemble. C'est les bonnes règles de communication dans le respect de soi, des autres et de la planète. Voilà deux éléments importants dont il faudrait tenir compte dans le domaine de l'approche médicale, de l'approche de santé. C'est que nous avons à l'intérieur de nous tout ce qu'il faut pour être bien et il y a des règles de base pour pouvoir gérer toutes les situations. Le quatrième niveau, eh bien, c'est le troisième cerveau. Ce que je place comme troisième cerveau, c'est le mental. Le mental, c'est l'organe qui nous permet de comprendre ce qui se passe. Pour moi, rien n'est le fruit du hasard. Une maladie, ça se tricote. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça, boum, ah tiens, c'est pas de bol, j'ai attrapé la grippe, j'ai attrapé un cancer. Non, ça se tricote. Et on a besoin de comprendre quel cheminement, quels événements, quelles situations, quelles réactions que nous avons eues qui nous ont fait aboutir à ce type de problème. Quand je rencontre quelqu'un en consultation, la première chose que je demande pratiquement une fois qu'ils ont décrit leur problème, c'est quand est-ce que ça a eu lieu? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a très peu de médecins qui posent ces questions-là. Or, la plupart des gens, ils savent que quand ils ont un problème de santé, il y a une origine, il s'est passé quelque chose, et c'est pratiquement toujours quelque chose, un événement, une expérience, un choc émotionnel, quelque chose qui est de l'ordre du non-amour, une blessure affective, quelque chose de l'ordre du rejet, quelque chose de l'ordre de l'abandon, enfin, quelque chose qui est de l'ordre du chakra du cœur, de l'ordre de « est-ce que je me suis senti aimé ou pas à ce moment-là ?» Donc c'est tout à fait essentiel de leur faire prendre conscience que c'est pas arrivé par hasard, ça. Et du coup, une fois qu'ils ont pris conscience du cheminement qui les a amenés ici, ça peut être aussi dans le cheminement, simplement, j'ai passé mon temps à manger n'importe quoi, à boire n'importe quoi, à faire une vie de chaise. Mais prendre conscience de ça, ça permet d'assumer ses responsabilités et de mettre en place les transformations nécessaires pour que je ne retombe pas dans ces problèmes-là. Les transformations nécessaires, c'est, pour moi, c'est transformer sa merde en compost. C'est une expression que j'aime bien parce qu'elle est assez parlante. C'est-à-dire, c'est transformer toute situation difficile en expérience d'être humain. Et une expérience d'être humain, eh bien, c'est une expérience d'amour qui prend corps. C'est-à-dire, la principale question à poser, c'est ce que je dis avec les gens quand je les accompagne en soins. Je leur dis, mais finalement, vous avez sûrement vécu des choses difficiles. Il y a sûrement des tas de raisons pour lesquelles vous êtes malade aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est votre responsabilité de ce que vous allez en faire. C'est-à-dire, en quoi vous allez transformer cette expérience difficile en quelque chose qui vous a fait grandir, qui vous a fait grandir. En quoi, grâce à ça, vous êtes plus créateur d'amour pour vous et pour les autres. c'est-à-dire en quoi, grâce à ça, vous allez vous vers plus d'autonomie, de liberté, de responsabilité, de créativité, de respect de vous-même, des autres et de la planète, et en quoi vous permettez à ceux qui vous entourent de faire la même chose. Le dernier domaine, le dernier niveau du... Et ça, on peut en discuter, on peut très bien choisir un être humain, une réflexion anthropologique, on dit l'être humain, c'est une machine qui a des émotions, qui réfléchit et tout ça. La dernière dimension, pour moi, reste essentielle. Nous avons besoin que notre vie fasse sens. Alors, dans tout mon cheminement, avec les différentes techniques médicales, dont sur lesquelles je reviendrai, les différentes techniques de soins, aujourd'hui, le sens que moi je propose à l'être humain, c'est de dire, nous sommes une parcelle de la conscience universelle, qu'on l'appelle l'univers, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle amour inconditionnel, qu'on l'appelle conscience universelle. Nous sommes une parcelle de cette conscience. Et nous sommes une parcelle hologrammique, c'est-à-dire que nous représentons l'ensemble de cette conscience. À l'intérieur de nous, nous avons toute cette conscience universelle. Nous avons tout le divin, tout est en nous, il suffit d'aller chercher à l'intérieur. La proposition que je fais, c'est celle-ci. Nous sommes une parcelle hologrammique de la conscience universelle qui prend corps pour s'expérimenter dans la matière. Et nous avons la responsabilité de notre façon d'expérimenter ça dans la matière. Autrement dit, si on fait l'équivalence entre le divin, l'univers, l'amour inconditionnel, nous avons la responsabilité de notre façon de créer de l'amour sur la terre. Et pour moi, c'est ça qui donne sens à notre vie. On remet l'amour au cœur de l'existence. L'amour, c'est, je l'avais défini tout à l'heure, c'est liberté, autonomie, responsabilité, créativité, respect de soi-même, des autres et de la planète. Eh bien, si on est dans cet axe de vie, en fait, on n'est pas fait pour être malade. On est fait pour être heureux, bien portant, rayonnant d'amour, de sérénité, jusqu'à la fin de sa vie, et on peut mourir dans la paix et la sérénité. Et quand on sort de cet axe de vie, si on n'arrive pas à transformer ses expériences en amour de plus en plus inconditionnel, eh bien notre corps le manifeste. Et comment il va le manifester? Entre autres, par la maladie. Et là, on arrive très très au-delà de la conception aujourd'hui d'une approche mécaniste qui va réparer des pièces détachées qui tombent en panne, puisque finalement, on va jouer sur le fait que les êtres humains ne sont pas faits pour être malades, que si on les aide à retrouver du sens et si on stimule leurs propres ressources, moi j'ai vu des guérisons quasi miraculeuses ou des décès dans la paix et la sérénité. Ça n'est pas la responsabilité du thérapeute ou du médecin, c'est la responsabilité de la personne. Notre boulot à nous thérapeutes, c'est de les accompagner dans ce chemin de vie, dans leur chemin de vie, les aider à aller jusqu'où eux ont envie d'aller. Et ils peuvent aller très très loin dans la guérison. Le dernier volet que je veux développer ici, à partir de cette réflexion anthropologique, à partir de cette conception de l'être humain, physique, énergétique, psycho-émotionnel, mental, avec les dimensions du sens, c'est toute une autre approche de la médecine qu'on peut proposer. On n'est pas obligé de la choisir. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse aller vers une autonomisation des services de protection sociale, une libéralisation. C'est-à-dire que chacun puisse choisir la façon dont il conçoit l'être humain et du coup, les implications que ça a pour la façon de se soigner. Et l'un de mes désirs les plus profonds, ça serait de participer à la création d'un réseau santé alternatif qui gère les cotisations sociales, parce que ça c'est la solidarité, au service de la santé et pas au service de la maladie, en permettant aux gens d'aller vers plus d'autonomie, de liberté, de responsabilité. Voilà mon souhait le plus cher. Et dans les conférences suivantes, je développerai les différents moyens thérapeutiques qui peuvent être mis au service de cette médecine-là. Pour moi, c'est la médecine de demain.